Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Le public, enfin, hier soir, après plus de 6 mois de spectacles captés pour des micros, pour des caméras, les artistes ont retrouvé le souffle, l'attention, l'accueil du public. Parmi ces artistes, ceux de la nouvelle production du Viol de Lucrèce de Benjamin Britten, production de l'Académie de l'Opéra de Paris, c'est au Bouffe du Nord, mise en scène par Jeanne Candel avec l'ensemble multilatéral, l'orchestre Atelier Ostinato, dirigé par notre invité ce matin, Léo Varinsky. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Comment cette première et ce retour devant le public, comment ça s'est passé?
C'était merveilleux. Je crois que je suis encore sur un petit nuage et tous les artistes de la production aussi. Sur un petit nuage parce que hier, les Bouffes du Nord étaient remplies à 35% parce qu'on est encore en jauge réduite. Et pourtant, elles ont tremblé à la fin des applaudissements des spectateurs comme si elle était pleine, cette salle, avec vraiment l'effervescence, la chaleur du public. Je pense que nous attendions le public et j'ai senti aussi que le public attendait de revivre cette expérience. On a besoin de partager la musique ensemble. C'est vraiment une expérience humaine essentielle dans l'existence. Et là, on a senti que quelque chose de très fort se passait hier soir.
Et ce sera jusqu'au 29 mai au Théâtre des Bouffes du Nord pour ce spectacle de l'Académie de l'Opéra de Paris dont on va parler. Est-ce qu'on joue différemment quand il y a des gens qui vous écoutent, c'est pas seulement des micros et des caméras?
Oui, nécessairement, et c'est peut-être encore plus vrai pour des chanteurs, puisque finalement, on vibre, on respire avec le public et on joue avec le public. J'étais frappé hier du silence qu'il régnait dans la salle, un silence concentré, un silence attentif, et ce silence-là, il nous invite à jouer avec, à nous transcender aussi. Donc oui, bien sûr que c'est essentiel, cette relation publique est nécessaire pour faire vivre le spectacle.
Britten, le Viol de Lucrèce au Bouffe du Nord. Britten que vous avez aussi enregistré avec votre ensemble Les Métaboles. Extrait des Flower Songs de Benjamin Britten, To Daffodil. Ce sont les jonquilles chantées par les Métaboles, l'ensemble de Léo Varinsky, notre invité ce matin. Là, c'est un Britten printanier.
Oui, printanier, c'est Flower Songs que j'aime beaucoup, qui ne sont pas si souvent enregistrés d'ailleurs de Britten. Britten, peut-être le plus grand compositeur du XXe siècle, ou l'un des plus grands compositeurs pour la voix et pour le chœur en particulier. Et là, en plus, je crois que ces chants-là, il les avait dédiés à un couple qui adorait les fleurs et qui avait un jardin merveilleux. Et c'est une commande pour honorer ce goût pour les fleurs. Donc effectivement, un parfum de jonquille pour ce matin printanier.
C'est plus sombre dans le Viol de Lucrèce, mais est-ce qu'on retrouve cette même patte, cette même intelligence de la musique vocale du compositeur ?
Oui, c'est peut-être ce qui fait la marque de Britten. C'est extraordinaire chez lui, la connaissance qu'il a de la voix, l'écriture harmonique qui fonctionne toujours très très bien. Et surtout, je crois, il y a un vrai génie chez Britten de la langue. Ce rapport entre la musique et le texte est extraordinaire et me fascine chez lui. C'est ce qui en fait peut-être aussi le compositeur d'opéra génial qu'il est. C'est qu'une partition de Britten pour la voix, c'est une analyse de texte lumineuse et transcendante.
Sa précision aussi, précision dans l'écriture, dans les nuances, dans les phrasés, tout est écrit.
Oui, du coup, tout est écrit et toujours dans un sens dramatique, dramaturgique. En fait, il suffit de faire ce qui est écrit et tout à coup, le sens apparaît. Il dresse quasiment des portraits psychologiques, c'est le cas dans le viol de Lucrèce, où les personnages en fait sont presque dits dans leur entièreté, non seulement de ce qu'ils disent, mais de ce qu'ils pensent, par la musique et la précision de la notation, et par la façon de, aussi l'orchestre vient suppléer ce que les personnages viennent dire. C'est absolument incroyable, c'est une mécanique de haute précision, Britten.
Ce viol de Lucrèce, c'est vos débuts à l'Opéra de Paris, alors sur la scène des Bouffes du Nord, depuis hier en public, avec l'Académie de l'Opéra. Comment vous avez travaillé avec ces jeunes musiciens et chanteurs?
Oui, alors ce sont de jeunes,
des artisans d'ailleurs.
Absolument, ce sont de jeunes chanteurs, cette académie, de jeunes chanteurs, mais qui ont déjà une expérience, qui ont un niveau vocal excellent. Hein. Je dois saluer d'ailleurs la qualité du recrutement et la qualité des équipes, parce qu'il y a deux équipes de distribution qui alternent. Donc c'est quand même incroyable de pouvoir proposer deux distributions aussi homogènes sur un opéra aussi rigoureux et compliqué. Et donc on a travaillé, c'est un travail de longue haleine, c'est quasiment le projet d'une année. Ils ont travaillé de leur côté avec leur chef de chant, avec Jeff Cohen aussi qui a été leur préparateur et qui connaît très bien ce répertoire. Et ensuite j'ai fait des séances de travail avec eux musicales avant de commencer le travail à la mise en scène qui a commencé début avril. Travail qui a commencé avril à la scène alors que nous ne savions pas à ce moment-là, ce qui allait advenir de ce projet et ce que nous allions pouvoir le jouer en public. Donc je dois dire que là, c'est un dénouement fort heureux et on est très heureux de montrer le fruit de ce travail là, devant public.
Deux distributions vocales entièrement différentes, ça fait deux spectacles différents?
Ça fait deux spectacles différents, nécessairement, puisque chaque chanteur investit le rôle différemment et naturellement son physique, sa voix ne raconte pas la même chose du personnage, selon que vous avez une voix très très grave, une voix plus puissante, même des physiques grands, petits, larges, peu importe à vrai dire, mais effectivement l'histoire qui se raconte n'est pas la même. Et ça a été vraiment le travail de la metteur en scène, Jeanne Candel, de travailler avec les individus, avec les personnalités de chacun de ces chanteurs et de voir ce que chaque chanteur, en fonction de son histoire, son passé, peut y mettre dans chaque personnage qu'il joue.
Spectacle à voir jusqu'au 29 mai. Moi, je vous l'avoue, hein, je ne l'ai pas vu parce que c'est un peu compliqué en ce moment d'avoir des places. Et puis, même si c'est à 18h, 18h30, on se lève tôt le matin. Mais j'ai lu d'excellents papiers encore ce matin. Philippe Venturini dans Les Échos, Christian Merlin, il y a quelques jours, dans Le Figaro, de ce viol de Lucrèce de Benjamin Britten. Est-ce que il est aussi héritier de cette polyphonie anglaise dont on va parler, qui débute au XVIe, XVIIe siècle?
Oui, comme tout compositeur anglais, il en est l'héritier. L'Angleterre est un pays de tradition. Les maîtrises existent depuis des siècles. Et tout compositeur, je crois, en Angleterre, a grandi dans le giron de ces maîtrises, de cette culture musicale. Et Britten le premier. Et d'ailleurs, Britten est maintenant au rang des compositeurs qui sont chantés, je pense, tous les jours, quelque part, en Angleterre. Il est chanté dans un evensong, une messe, un office. Il est devenu un classique, en fait.
Y compris par des chœurs d'enfants, d'ailleurs, hein, souvent en Angleterre. C'est quoi, comment on pourrait définir ce style choral anglais?
Alors je pense qu'il se traduit par déjà une grande clarté. Alors il y a des voix très particulières. Déjà le style anglais, c'est la tradition des maîtrises. C'est les voix d'enfants, généralement pour les sopranos. Donc c'est ces voix blanches, très pures. Souvent les altos qui sont des contre-ténors chantés par des hommes. Donc c'est un son très particulier. Ces ténors puissants, aériens et ces basses vibrantes. Ça c'est vraiment déjà ce qui définit. Et l'autre chose, je dirais, c'est l'attention portée à la déclamation. On fait toujours la différence entre un chœur français ou un chœur anglais qui chante, puisque l'anglais va affecter beaucoup plus la prononciation, notamment les consonnes, que les français. Parce que ça fait partie de l'essence même de la langue anglaise. Et peut-être c'est ça aussi qui en fait un art tout à fait particulier, l'art du chœur anglais.
Donc c'est tout ce travail que vous avez fait avec votre ensemble Les Métaboles, 16 chanteurs. C'était un concert à Royaumont, c'était un concert enregistré par France Musique. C'est désormais un disque, en voici un premier extrait, la musique de William Byrd. Et si c'était votre disque de déconfinement, The Angels, qui paraît chez Nomad Music, Les Métaboles, dirigé par Léo Varinsky, L'Ave Verum Corpus de William Byrd, c'était un concert à Royaumont, c'était exactement en octobre 2019. C'est désormais un disque. Pourquoi, Léo Varinsky?
Eh bien, c'est effectivement un concert qui a été enregistré, un de ces moments de grâce où tout marche bien. C'est les chanteurs sont en phase, le lieu est magique, le programme très beau.
La prise de son aussi.
La prise de son est magnifique aussi, très très beau travail, c'est vrai. Oui. Et l'année dernière, c'était pendant le premier confinement, j'ai réécouté ce concert et ça m'a fait du bien. En fait, tout simplement, ça m'a fait du bien et j'ai partagé ce bien-être, disons, avec ma famille, avec qui je faisais le confinement. Et je leur ai demandé, mais vous pensez pas que ça pourrait faire un disque? Je ne pouvais plus dire juste si j'étais objectif ou pas. Et c'est vrai que les retours ont été tellement enthousiastes que c'est là que je me suis dit, pourquoi pas? On va en faire un disque live, ça sera la première fois. Et j'aimerais que, mon souhait, c'est que tout le monde qui écoute ce disque puisse sentir la même satisfaction et le même bien-être que j'ai pu avoir à le diriger et aussi à en faire un disque finalement.
On parlait de ces concerts sans public, pour les micros, pour les caméras, l'arrivée du public. Là, c'est un peu un disque qui est fait d'après un concert. On est dans le processus inverse. Il faut accepter aussi que tout ne soit pas forcément parfait, en tout cas pour vous, pour vos oreilles, j'imagine.
Absolument, c'est ça. Sauf qu'on n'écoute pas forcément un disque comme on écoute un concert. Le concert a ce côté vivant. D'ailleurs, c'est ça qui nous a peut-être manqué le plus. Mais le disque, c'est quelque chose qu'on écoute, qu'on réécoute aussi. Et donc, l'oreille s'affine et quelque chose qui peut apparaître comme un défaut touchant ou humain en concert peut... au fur et à mesure de l'écoute, devenir progressivement un petit peu envahissant. En tout cas, c'est peut-être mon oreille qui fonctionne comme ça, très autocritique aussi. Donc, je voulais pas non plus que l'objet disque desserve le projet de ce programme. Et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, en l'occurrence, avec ce programme.
À propos d'oreille, on parlait de la prise de son, mais il y a aussi l'acoustique de cette abbatiale de Royaumont. Vous arrivez avec vos 16 chanteurs, avec votre ensemble, les Métaboles. Comment on s'adapte, comment on joue des difficultés de l'acoustique particulière d'un lieu, en l'occurrence ici, Royaumont?
Oui, d'autant que Royaumont a une acoustique qui n'est pas si facile, elle se transforme beaucoup, ça dépend des lieux, c'est le mystère de l'acoustique. Le programme a quand même été conçu pour ce lieu. Donc j'avais déjà l'imagination au moment où j'imaginais ce programme-là, qu'on allait le créer dans le lieu et qu'il allait être adapté. D'où le fait que ce sont beaucoup de pièces assez lentes aussi, et qui justement laissent le temps à la résonance de se faire naturellement. Donc j'avais anticipé l'appréhension du lieu avant de faire le programme. Et ça, c'est le cadre absolument idéal. Et c'est la chance qu'on a au Métabol d'être en résidence à la Fondation Royaumont dans cette abbaye. Donc c'est un espace que je connais bien maintenant, dans lequel nous faisons beaucoup de concerts et dans lequel je peux imaginer plein de projets.
Un lieu inspirant qui, d'ailleurs, je le signale, vient de rouvrir au public. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la région parisienne, à aller à Royaumont, notamment ces merveilleux jardins. C'est quoi le fil conducteur de ce projet The Angels? On est donc dans la polyphonie anglaise, mais on parcourt plusieurs siècles.
Oui. Oui, c'est le projet qui m'inspire au Métabol. C'est grâce au fait de diriger un ensemble vocal. J'ai devant moi 1000 ans de répertoire au moins, de grégorien jusqu'à nos jours. Et c'est intéressant de jouer avec cette multitude de répertoires en trouvant toujours un fil conducteur qui a une certaine cohérence. Là, en l'occurrence, c'était ce compositeur. Jonathan Harvey, donc compositeur du XXe siècle, mort en 2012, et qui lui aussi d'ailleurs est un héritier de cette tradition polyphonique anglaise, même s'il a conquis beaucoup de territoires différents dans sa musique. Et donc à partir de Jonathan Harvey, j'ai eu l'idée de dérouler un fil conducteur qui nous permettait de relier cette musique-là à celle du passé de façon assez naturelle. Et c'était important pour moi que, comme dans le disque et au concert, les pièces s'enchaînent sans qu'on sache où l'on est. Donc on se perd dans les méandres du temps, dans le labyrinthe du temps.
On va faire une petite démonstration d'ailleurs. Voici d'abord ceci. Musique du XVIe siècle, de Palestrina, extrait de son Stabat Mater, et voici maintenant cela.
Et
Et ici donc une musique du 21e siècle, de début de l'Annonciation, The Annunciation de Jonathan Harvey. Là, la preuve est faite, Léo Varinsky, le compositeur du 21e siècle, cite Palestrina.
Complètement. C'est l'incipit du Stabat Mater de Palestrina que reprend Jonathan Harvey. Et comme c'est un très beau symbole en plus, parce que Stabat Mater, donc, c'est ce texte qui raconte les souffrances de la Vierge Marie au pied de la croix qui voit son fils crucifié. Et de ce texte et de cette œuvre-là, Jonathan Harvey écrit une annonciation, l'annonciation qui est le contre-pied presque de ça, puisque c'est le moment où l'ange annonce à Marie qu'elle attend Jésus-Christ. Et c'est très beau parce que c'est une des dernières œuvres de Jonathan Harvey, peut-être l'ultime œuvre qu'il ait écrite pour cœur. Et finalement, cette idée cyclique, finalement, de la mort vient la vie, c'est aussi une vision, je pense, qui correspond à Jonathan Harvey, qui était un mystique et qui avait cette vision, je pense, héritée aussi de sa connaissance de l'Orient, du cycle de la vie, de la réincarnation. Donc c'est très très profond en fait. Cette relation n'est pas que musicale, elle se situe à une dimension métaphysique aussi.
On l'entend ici, il y a les chanteurs, il y a ce chœur et ce son homogène et puis des voix solistes qui émergent de temps en temps. Comment on choisit le nombre de chanteurs, ici 16 par exemple ?
Alors c'est vrai que les choix sont dictés par les œuvres. Les métaboles, c'est un ensemble qui est à géométrie variable, donc selon les répertoires, j'aime varier le nombre de chanteurs. Là, 16 est le nombre idéal parce que ça me permet de faire le double chœur aisément. Ça me permet aussi
c'est quoi,
de trouver...
le double chœur ?
Alors le double chœur, c'est par exemple dans le Palestrina qu'on vient d'entendre, le Stabat Mater, il y a deux chœurs opposés. Un chœur 1, un chœur 2 de quatre voix.
Comme en stéréophonie.
C'est de la stéréo de l'époque. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a créé une œuvre de bénévolo à Royaumont à quatre chœurs. Donc là, c'était quasiment de la quadriphonie. Finalement, l'IRCAM n'a rien inventé. Elle existait déjà à l'époque, sans électricité. Et donc on a fait ça avec le Stabat Mater. Donc les 16 voix des chanteurs des métaboles, ça me permet à la fois d'avoir un chœur homogène, la sensation d'avoir vraiment un ensemble, et aussi d'en faire émerger des voix solistes. Et c'est ce qui m'intéresse avec cet ensemble. C'est comme, je suis comme le peintre avec sa palette de couleurs, et j'aime bien de temps en temps les mélanger ou en faire ressortir une.
La fin de cette ultime pièce de Jonathan Harvey, The Annunciation, c'est donc le dernier disque des métaboles de Léo Varinsky, notre invité ce matin. Ça paraît chez Nomad Music, The Angels. Vous êtes au Bouffe du Nord jusqu'au 29 mai pour le viol de Lucrèce de Britaine avec l'Académie de l'Opéra de Paris. Vous travaillez beaucoup avec de jeunes musiciens. Vous n'êtes guère vieux d'ailleurs, Léo Varinsky, vous n'avez pas encore 40 ans. Acte J, qu'est-ce que c'est ?
Acte J, alors ça sera un projet l'an prochain transfrontalier, puisque les métaboles sont implantés en Grand Est. Et donc le Grand Est, c'est une zone de frontière. Et donc c'était important pour nous que les métaboles aussi participent à des projets qui associent les pays d'Europe. Et donc c'est un projet qui va associer plusieurs ensembles, un ensemble suisse, un ensemble allemand et les métaboles, autour d'une académie pour jeunes chanteurs, puisque c'est important aussi que cette transmission du chant se fasse au niveau amateur et professionnel. Et donc Acte J, ça va être une rencontre entre plusieurs jeunes chanteurs de Suisse, de France et d'Allemagne, chapeautés par des chanteurs professionnels de ces trois pays, dont les chanteurs des métaboles pour la France, et qui feront une série de concerts dans ces trois pays.
Inscription jusqu'au 31 mai, si je ne m'abuse. Vous travaillez aussi avec de jeunes compositeurs, avec une académie à venir. C'est important aussi. Ils écrivent pour les chœurs, les jeunes compositeurs ?
Oh oui, ils écrivent. Il faut les inciter à écrire, parce qu'ils ne connaissent pas forcément et... ils n'ont pas forcément non plus tant d'outils que ça, parce que les chœurs de très haut niveau capables de déchiffrer un répertoire contemporain et leur donner cette capacité d'expérimenter aussi des choses n'est pas si fréquent. Donc c'est important pour moi que ARCO, donc qui est cette académie qu'on a créée avec l'ensemble multilatéral et les métaboles, permette aussi aux compositeurs à la fois de se confronter à la voix, au chœur et aussi au répertoire mixte, parce que je milite aussi pour ça. Vous l'avez dit au début, j'ai la chance d'être chef d'orchestre et chef de chœur, et donc je trouve qu'il manque aussi d'un répertoire qui associe les instruments et le chœur, et donc je milite aussi pour ça. Il n'y a pas longtemps, on crée le Requiem de Francesco Filidei à la Philharmonie avec l'ensemble intercontemporain et les métaboles, et c'est vrai que c'est des grands répertoires comme ça pour chœur et ensemble instrumental sont importants à faire naître.
Et on vous retrouvera le 31 mai au Centre Pompidou pour le concert d'ouverture du festival Manifeste. On est en plein dans la création. Merci beaucoup Léo Varinsky. D'ailleurs, toute dernière chose, chef d'orchestre, chef de chœur, c'est le même métier ou pas ?
C'est le même métier, la technique est la même, le répertoire n'est pas le même, mais finalement, chef d'orchestre, chef de chœur, ça me permet d'être un artiste très complet et épanoui. J'ai 1000 ans de répertoire devant moi, je compte bien en profiter.
Les métaboles et l'ensemble multilatéral, des ensembles qui se portent comment en cette période ? Ça a été compliqué ? Vous êtes passé entre les...
Oui,
les difficultés.
Ça a été compliqué, ça a été important pour moi en tant que directeur d'ensemble d'assumer la responsabilité aussi collective pour mes équipes, mes équipes administratives, mes équipes artistiques, de continuer à maintenir le lien, maintenir l'activité. On s'est tenu au courant de leur activité, de leur santé, et on a tout fait pour les maintenir au maximum ensemble, reliés.
Merci beaucoup, rendez-vous au Bouffe du Nord pour ce viol de Lucrèce, rendez-vous avec ce disque The Angels que vous donnerez notamment au Festival de la Chaise-Dieu cet été. On a commencé avec des fleurs, et ben on se quitte aussi avec des fleurs.